repérage du bibliothécaire.
Bonjour, monsieur Benigno.
Bonjour, Marc. Comment vas-tu en cette journée pleine de chaleur, des bruits, des sons? Très riche journée.
Absolument, ouais. Très riche journée, c'est le cas de dire. Ouais, alors, ouais. On va laisser un petit peu profiter.
Oui, oui, donc ça.
Bah, blanc, bing, bang.
On construit, on est en train de construire un abri anti-chaleur. C'est pour ça que vous entendez ces bruits.
Ah, ok, ok.
Oui, mm-hmm. Ouais, c'est... On va être le dernier réduit de l'invasion climatique.
Ouais, d'accord. Voilà. Bon, j'ai une bonne idée.
Voilà, cela dit, ouais. En attendant, on va en parler livre, tant qu'elle ne brûle pas à cause de la chaleur.
Ouais, c'est vrai, c'est que 450 degrés Fahrenheit, c'est bon, hein?
Ouais, ouais, absolument. Ah, il me semble. Il y a même un livre sur ça. Mais écoute, oui, alors on va parler un petit peu livre.
Ouais, alors qu'est-ce qu'il y a dans cette liste du mois de juin?
Alors la liste des juin, bon, c'est une liste qui est comme un espresso. Elle n'est pas la plus étendue, par contre, elle est bien, elle a une saveur assez personnelle. Et assez riche. Il y a des, comme toujours, une belle palette des policiers, des tout genre et de tout pays. Il y a du Camille Lacbert, du Thomas Harris, des Cataldo qui est un Italien génial. Il y a Eric Amber qui est un grand classique du roman noir et polar. Et il y a du suédois, etc. Mais je vais parler des deux romans qui sont chacun à sa manière. Très percutant et qui donne un univers très personnel. C'est un roman d'un romancier qui s'appelle Kaspar Colling Nielsen, qui est un Danois, et qui est connu, tu sais qu'on aime bien faire des comparaisons, et donc on l'appelle le Houellebecq danois, et puis voilà, bon, c'est clair que si à Houellebecq on l'appelait le Nielsen français, personne ne se comprendrait ce qu'on veut dire, mais bon. Alors c'est Nielsen qui en effet a partage un tout petit peu avec monsieur Houellebecq ses côtés un petit peu désabusés et ironiques et amers sur le futur de l'Europe et de la civilisation, et crée un livre un peu dystopique. Et en fait, lui, il a un peu les mêmes préoccupations que Houellebecq, mais d'un autre angle. À mon avis, il y a une certaine, et c'est assez profond, mais il y a une certaine légèreté, et peut-être un petit peu moins auto-pitoyable que Houellebecq, mais aussi dans la même ligne. Donc là, en l'occurrence, il y a les dangers de l'islamisation de l'Europe, évidemment, là, l'extrême droite qui monte, et il y a toutes les tensions qui s'exacerbent en Europe. Et qu'est-ce que fait le Danemark, toujours des gens très très calmes, très analytiques. Alors, ils vont accueillir les réfugiés, sauf que ils vont les accueillir dans un endroit très très vert, très verdoyant, qui sont achetés au Mozambique. Et donc, on peut pas dire que les Danemark n'accueillent pas les réfugiés parce qu'ils sont achetés un grand espace au Mozambique, en Afrique, et c'est là qu'ils envoient tous les réfugiés. Mais comme ça appartient à Danemark, ça, on peut pas dire qu'il les refuse. Et donc, il les amène tout là-bas, mais pendant ce temps, parce que ça, c'est une partie un petit peu marginale, mais un peu qui donne les tons. Et il y a tous les changements qui se passent, au Danemark, il y a des personnages complètement loufoques. Il y a ces galéristes qui est un peu le personnage qui mène l'histoire, qui s'appelle Stig, et sa femme qui est une chercheuse et en intelligence artificielle. Et figure-toi qu'ils sont en train de faire des implants pour que les animaux puissent parler. Et donc là, ce qui est très très drôle, parce que ça donne un contrepoint au bouquin, c'est qu'il y a un chien et un corbeau qui sont les produits. Bon, on le saura au fur et à mesure, mais bon, je spoil un petit peu, comme on dit, et que c'est un corbeau et un chien, bon, on s'en compte assez vite, et ils ont des débats assez philosophiques, Et parce qu'ils sont intelligents, puis les corbeaux évidemment un peu plus intelligents, et donc ils ont des débats assez, qui sont assez drôles, mais qui donnent un peu le contrepoint de ce qui se passe dans l'histoire. Et donc il y a ces chiens, ces corbeaux qui ont été modifiés génétiquement, il y a tous ces personnages qui vont s'exiler dans un endroit un peu au Danemark même, mais à l'écart, où il y a une communauté riche qui habite avec tous les avantages, et puis ces animaux, et puis des drones, et puis compagnie. Et parce que le monde est en train de s'effondrer. Et ils ont une fille qui, elle, tout d'un coup, se sent une fibre humanitaire, et elle va au Mozambique, et sauver, enfin, s'occuper de ces pauvres immigrés qui ne le sont pas vraiment, puisqu'ils ont immigré, puis ils ont été ex-migrés, on va dire, et, tout en restant au Danemark. Et donc là, il y a un humour noir, comme ça, très, très, très caustique, et sur la société contemporaine, sur les dérives et sur tous les préjugés et qui est pas mal, qui est assez réussi. Donc l'auteur s'appelle Kaspar Colin Nielsen et le livre s'appelle Les Outrages et les numéros et les 65477. Comme deuxième livre, parce qu'on va parler que des deux, il y a une auteure, une femme, et en l'occurrence américaine, qui s'appelle Amy Belden Brown, et son livre, là, on n'est plus au 21e siècle et au 22e siècle, on est plutôt au 18e siècle, aux États-Unis, au nord des États-Unis, donc c'est les Massachusetts. Là, tu vois, à ce moment-là, il y a vraiment une grande immigration, notamment des puritains, de ces gens qui venaient d'Angleterre, qui pratiquaient une religion très dure, très stricte. Et parmi ces communautés qui s'implantent là, évidemment que quand ils sont arrivés en Amérique, c'est pas comme si quand tu loues un appartement vide, il y avait des gens, il y avait du monde. Et il y avait les Indiens, y compris au Massachusetts d'ailleurs. Et donc cette dame qui est un peu étouffée par ces mondes puritains, elle se sent pas très à l'aise, et entre son mari, les préceptes moraux des pasteurs puritains, etc. Et d'une certaine manière, accidentellement, il va avoir une bouffée d'air frais qui lui vient en forme des raids indiens qui vont l'attraper. Donc, les Indiens attaquent son village, donc elle est prisonnière et elle va apprendre à connaître ces Indiens qui sont les Indiens du peuple Pocasset. Que pour nos amis et nos amis auditrices et auditeurs qui s'intéressent au peuple autochtone appartient à la tribu Pacanoket qui appartient eux-mêmes au peuple Wampanoag. Je sais pas si ça te apporte quelque chose, mais c'est juste pour les discussions de samedi soir, si on ne sait pas quoi dire. Donc bref, ils se sont pris par ce peuple, mais cette dame qui d'ailleurs a existé vraiment, donc c'est une histoire vraie à la base, c'est Mary Rowlandson qui a été kidnappée, qui a vécu toute cette histoire. Et donc, elle adopte les coutumes des Indiens et elle se rend compte même que parmi ces Indiens-là, il y a les rapports hommes-femmes, et d'ailleurs, ça, petit clin d'œil à quelque chose dont on parlera tout à l'heure, il y a beaucoup plus d'égalitarisme, parce qu'il y a des femmes qui sont chefs guerrières, etc., qui n'existent pas dans son monde à elles, puritain, soi-disant civilisé occidental. Donc elle apprend beaucoup de choses, et mais évidemment, en même temps, elle souffre, parce que ces gens-là, quand ils ne peuvent pas chasser, ils ont faim, et parfois ils sont eux-mêmes chassés par les Blancs, bien sûr. Donc elle vit tout ça, et donc c'est un livre très, très passionnant sur tout ce monde, dès l'Amérique encore à moitié vierge, on va dire, du 18e siècle, et cet affrontement entre les puritains européens et le monde indien qui est un monde qui n'est pas forcément tendre, mais qui a une plus grande, disons, liberté dans la manière de vivre, en tout cas. Donc, c'est L'envol du moineau de Amy Belden Brown et le numéro, c'est les 65501. Voilà, parmi, bien sûr, la pléthore de livres intéressants qui sont à disposition dans notre liste.
Et qu'avons-nous en production ?
Alors, en production, évidemment, comme toujours, il y a plein de surprises, plein de bonnes choses, parmi lesquelles un livre d'un Américain qui s'appelle Robert Lessig, bon, qui est d'origine anglaise d'ailleurs, mais qui nous parle, nous fait la biographie un peu la plus complète sur un personnage haute en couleur qui est Meyer Lansky. Bon, je pense que tout le monde a entendu au moins une fois parler de Meyer Lansky, c'est le grand chef de la mafia américaine. Qui n'a jamais, d'ailleurs, n'a jamais pu être emprisonné par les charges principales qu'il avait commis. Le livre s'appelle déjà, ça donne le ton, Meyer Lansky, les cerveaux de la mafia. Il faut savoir que Meyer Lansky, qui était un gamin qui était d'origine juive et russe, et sa famille a immigré, etc., à New York. Et c'était un gars qui était un génie. Donc, un agent de l'FBI qui l'a poursuivi pendant longtemps a dit que s'il n'avait pas été un mafieux, il aurait pu être le PDG de General Motors, parce que il avait un cerveau scientifique énorme. Ils ont jamais pu il avait une mémoire prodigieuse. Ils n'ont jamais pris le choper en document, qui prouvait quoi que ce soit, parce qu'il a magasiné tout dans sa tête. Toutes les transactions, toutes les choses, il n'avait aucun papier. Et donc, c'est la vie de ces Robert. Qui, en plus, il avait toujours, et ça nous touche un petit peu, sa carte de bibliothèque en Floride. Il allait tout le temps, lui seul, comme n'importe qui, avec sa petite carte, emprunter des bouquins, parce qu'il aimait beaucoup lire déjà dans sa vieillesse. Donc il allait tout, comme n'importe qui, comme un simple citoyen, comme ça, à sa bibliothèque, et il sortait ses bouquins. Donc c'est un personnage complètement intéressant et fou. Et c'est Meyer Lansky, et la biographie, elle est très bien faite. Donc Meyer Lansky, le cerveau de la mafia, il va être bientôt disponible pour nos auditeurs et nos auditrices. Voilà, parmi les choses, en lecture et en prod.
Et pour l'avenir, sur ta table, t'as des choses encore ?
Oh là là, sur ma table, il y a énormément de choses. Il y a des policiers, de la philosophie, de la politique, de l'humour. Et il y a un livre qui fait partie d'une série de livres, qui est un auteur, je vais peut-être en parler un peu plus prochainement, parce que peut-être qu'il va être dans une des prochaines sélections. Mais comme il est sur ma table, je vais en parler. C'est un auteur qui s'appelle David Shahar, qui est un auteur qui est originaire de Jérusalem. Et justement, ce livre s'appelle... Alors, a été publié à l'origine comme sous le titre de « Le palais des vases brisés ». Et puis là, ça s'appelle, dans cette édition, « Un été rue des prophètes », c'est une rue de Jérusalem. Et là, il raconte un peu la vie dans cette ville dans les années 30, donc dans les années qui ont précédé, les années 40, tous ces bouleversements. Mais depuis l'époque ottomane, donc il y a l'époque ottomane, donc l'époque où les Turcs occupaient cette région. Et après, il y a eu l'occupation anglaise, donc à la suite de la Première Guerre mondiale. Mais tout ce monde, ce petit monde, est raconté avec beaucoup de poésie, avec beaucoup de tendresse. Et il y a des personnages qui sont inoubliables, qui font penser parfois, pour certains aspects, à certains personnages d'Albert Cohen, de cette famille, des Manches-Cloues, tout ça, mais aussi une autre dimension plus tendre, plus recueillie. Et donc chaque page, c'est vraiment, en même temps, il y a de l'humour, il y a un talent de conteur immense, et il y a aussi... qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a aussi...
Les travaux, les plaisirs des travaux.
Oui. Et puis peut-être qu'ils aiment bien la littérature et puis qu'ils s'excitent quand on s'entend parler d'un bon livre.
C'est possible. Alors, ils ont touché un fil qu'il ne fallait pas toucher.
Voilà. Et puis, donc, c'est une preuve de plus que c'est un très bon livre qui s'appelle « Un été rue des prophètes » de David Shahar, et qui fait partie de toute une série de livres qui décrivent ce monde, cette ville du Moyen-Orient, et emblématique s'il en est, mais par des touches poétiques, de l'humour, de l'imagination, de la fantaisie. C'est vraiment un auteur qui se déguste et que vous aurez, j'espère, prochainement l'occasion d'écouter si un lecteur ou une lectrice se dévoue à cette tâche.
À propos de lecteurs, lectrices, j'ai eu récemment plusieurs personnes qui m'ont fait la remarque « Ouais, mais c'est bien gentil, mais chez Benigno, il n'y a bientôt plus que des énormes pavés de 500, 600, 800 pages. Est-ce que c'est une question de tendance, une question de hasard ? À quoi ça tient ?»
Alors, j'ai une bonne nouvelle. Les livres dont je venais parler, « En été rue de prophète », il fait 189 pages. Donc, il suffit de regarder, puis on va trouver des bons. Mais il y a, en effet, et parmi les nouveaux auteurs, et surtout au niveau des polars et autres, il y a une tendance à la surpagination, peut-être, parce que... ça paye par page ou par caractère, je sais pas. Mais néanmoins, il y a des auteurs qui écrivent beaucoup parce qu'ils ont beaucoup à dire. Et ça existe aussi.
Oui, ça, on est d'accord. Mais est-ce que c'est une tendance un peu ou bien c'est par hasard?
Non, mais il y a des tout, en fait. Ça dépend des moments. C'est vrai que si c'est lui qui vient tous les 6 mois, puisque qu'il vient tous les 2 mois, mais si on fait une instantanée régulièrement, ça change beaucoup, ça évolue beaucoup. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'évidemment, les livres petits partent plus vite que les gros.
Ouais,
et donc, ça, du coup, ça peut donner cette impression-là.
Donc, ouais, c'est clair.
Donc,
c'est
clair. Alors, du coup, c'est les lecteurs, qui nous entendent, sachez qu'il y a des livres de 189 pages qui sont très bien et qui sont sur ma table aussi.
Et pour les auditeurs, ma foi, c'est aussi un peu le hasard qu'il y ait des bouquins très longs qui les ont intéressés, parce que aussi des auditeurs m'ont fait la remarque.
Ouais. Après, il y a des très bons qui sont gros aussi. Hein. Il y a des auteurs qui écrivent des choses.
On s'était posé la question si les frais d'impression avaient baissé. ou...
Non, il y a tout. Mais quand tu regardes les durées, par exemple, celui de Kaspar Colin Nielsen dont j'ai parlé tout à l'heure, ça fait 14 heures, donc ça reste raisonnable. Et puis, les fameux livres qui se déroulent dans l'Amérique des années du 18e siècle, il fait aussi dans les 14 heures. Donc, tu vois, ça reste quand même relativement raisonnable.
Ouais.
Après, il y a bien sûr les bouquins des 20 heures et tout. Mais ça, je dirais que ça reste dans la moyenne, dans les 300-400 pages. Mais c'est vrai qu'après, dans les polars et dans d'autres livres, il y a des gens qui balancent des pavés. Et il y a des livres courts, qui sont aussi très bien. Mais tu vois, par exemple, il y a la fameuse série dont je n'ai pas parlé, mais qui est des séries des. Sont 3 livres suédois et Anders Roslund qui s'appelle 3. Enfin, je vais nommer 3 parce qu'il y a le premier volume qui s'appelle 3 minutes, 3 secondes, le deuxième s'appelle 3 minutes, le troisième s'appelle 3 heures. Et puis, il fait plus de 3 minutes, 3 heures, ça fait 20 heures de lecture. Mais voilà, ça dépend du genre, ça dépend de l'auteur. Et Marc Lévy, il reste, ça dépend parce que c'est très aéré, enfin dans tous les sens du terme. Mmh. Et ça fait dans les 7 heures, 8 heures ce bouquin. Mais moi je dirais que la moyenne des livres qu'on lit, la moyenne, hein, c'est dans les 12 heures, je dirais. Mmh. Après tu peux trouver un livre de 3 heures, de 4, ouais, puis un livre de 35, mais la moyenne c'est 12 heures. Ouais.
Bien, parfait. Ben on se réjouit de découvrir tout ça. Merci.
Mais d'un prix.